I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, l'émission où on vous parle de séries et de films Marvel. Et d'autres choses parfois, mais aujourd'hui, on va parler, on va vous résumer, on va faire un petit after pour les deux épisodes de milieu de série de Miss Marvel. Je suis Patrick Béja, et ici, juste à côté de moi, il y a Johan. Comment ça va, Johan ?
Eh ben, ça va super bien. Oui, ça va très bien. Le week-end se déroule comme il faut.
Hésitant, hein, je suis...
Si.
Si, ça va. T'es en week-end en même temps, depuis trois jours.
Ouais, donc, voilà.
Oui, ça va. C'est bien, c'est bien. Est-ce que tu en... J'ai vu que tu en avais profité pour finir Final Fantasy VII, le classique.
Ouais. Ouais.
Et tu es sous le charme.
J'ai bien dosé. Hein. Mmh. Ouais, je suis assez sous le charme, ouais.
Très bien. Donc,
j'ai passé des années à dire c'est quoi leur jeu avec le mec avec son sabre qui soi-disant super cool, mais moi je trouve pas.
D'accord. Et maintenant tu le trouves super cool au final.
Je trouve toujours pas super cool.
Ah d'accord. Donc tu vas pas.
Et par contre, je comprends pourquoi mes camarades adolescents de l'époque le trouvaient super cool.
Donc tu vas pas en être à changer tes pseudos sur les réseaux sociaux et sur les
Je ne serai pas Dark Sekiros 64.
D'accord, ok, très bien. Bon bah écoute, c'est un plaisir de te retrouver pour la deuxième fois cette semaine, puisqu'on a parlé de Obi-Wan Kenobi il y a quelques jours à peine. Et on essayera, alors je ne sais pas parce que pour le coup c'est mes enfants qui seront en vacances après, mais on essayera de parler de Thor Love and Thunder, dans quoi, une semaine, quelque chose comme ça, un peu plus.
C'est ça.
Mais du coup, aujourd'hui, on est là pour parler des épisodes 3 et 4 de Miss Marvel, Destined et Seeing Red. Les deux épisodes, bon, vous ne connaissez peut-être pas les titres, mais ils sont là. Après deux premiers épisodes qu'on avait quand même beaucoup aimés, toi et moi, juste dans l'ensemble, ce milieu de saison, en quelques mots, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Alors, l'épisode 3 m'a fait assez peur, à vrai dire. J'ai toujours trouvé ça chouette, mais voilà, c'est là où pour moi ça commence à être un peu inquiétant, parce que bah, voilà, on a nos antagonistes qui sont là, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas terrible, quoi. Mmh. Mais pour autant, tout ce qu'il y a autour de ces antagonistes-là, donc toujours la vie de notre Kamala, ça se passe toujours super bien. Je suis toujours vraiment... ça me donne toujours le smile, en fait, d'être devant cette série. Mm-hmm. Donc voilà, un petit coup de mou, mais pas dramatique. Je passe toujours un bon moment.
D'accord. Et l'épisode 4 ? Ah, c'était les deux, là.
Pareil, ouais, voilà, c'est ça, c'était les deux.
D'accord, ok. Ouais. Alors. De mon côté, et on va partir peut-être un petit peu dans les détails après, mais de mon côté, c'est marrant parce que je crois qu'avec l'épisode 3, j'ai tweeté juste après l'avoir vu, c'est incroyable comme c'est joyeux cette série. C'est vraiment, ça, comme tu dis, ça te donne le smile, ça fait sourire, ça donne envie d'être heureux en fait. Et évidemment, une autre chose qui est notable, c'est que je crois pas avoir vu déjà, c'est peut-être un manque de culture, mais je crois pas avoir vu beaucoup de choses à la télé ou même au cinéma qui mettent ensemble dans ton esprit islam et joie. Tu vois, généralement, c'est plutôt représenté d'une manière un petit peu différente. Et là, comme on le disait pour les épisodes 1 et 2, c'est juste, t'es juste heureux, content et tout. À côté de ça, comme toi... le reveal des méchants, il m'a un petit peu inquiété. Mais contrairement à toi, sur l'épisode 4, par contre, c'était un peu le crash des crypto-monnaies, quoi. Version série.
Attends, le 4, pour toi, ça s'est écroulé un peu.
Bah, franchement, j'étais... Si tu veux, c'était tout ce qu'il y avait qui m'a inquiété dans le 3, sans les aspects plutôt cool. On a, enfin, vraiment, la vie de Kamala est passée au second plan, et je trouve qu'on se retrouve dans une sorte de configuration série, tu sais, de CW, où... on va en parler du 4 ensuite, ouais, un petit peu en détail. Mais voilà, du coup, pour moi, là, ils ont intérêt à redresser la barre avec le 5 et le 6, parce que, et je crains que ça ne soit pas possible. Vu dans quoi ils sont engagés au niveau narratif, ou disons, avec la pauvreté de ce dans quoi ils sont engagés, ça va être compliqué. Mais du coup, parlons d'abord de l'épisode 3. Il se divise en gros en deux parties. La rencontre avec les clandestins et l'explication de où ils viennent, ce qu'ils sont, etc. Et puis ensuite, le mariage de Amir, qui est à la fois mariage et la scène de combat. Donc la première partie, si je comprends bien, c'est ce qui t'a un petit peu inquiété. L'histoire avec les clandestins, c'était pas convaincant, quoi.
Ouais, alors bon, ça va, effectivement.
Ah oui, c'est pas ça qui t'a gêné?
Non, parce qu'imaginez, c'est plutôt justement la fin. C'est plutôt la fin d'épisode. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, il y a cette rencontre-là. Donc, moi, je me doutais que ça allait mal se passer avec ces gens-là.
Mais c'était pas une surprise que ces amis soient des méchants. Non,
mais justement, c'est peut-être la façon dont ça a été amené que j'ai trouvé un peu catastrophique. Parce que du coup, effectivement, au début, ils se font passer un peu. D'ailleurs, ils sont peut-être. De bonne foi, hein, je veux dire, ils ont leur motivation qu'on peut comprendre à la limite. Mais du coup, ils parlent avec Kamala, ils lui expliquent un peu d'où elle vient, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire, etc. Et un tout petit peu plus tard dans l'épisode, c'est ça y est, c'est trop, quoi. Ah non, on a attendu assez longtemps, on tape, ouais, du poing sur la table, on va ruiner un mariage pour être les méchants. Tu vois, alors qu'ils avaient une relation privilégiée avec elle, ils auraient pu la réinviter, et puis ouais, une fois qu'elle est toute seule avec eux chez eux, tu vois, ça aurait été, tu vois, enfin, je veux dire, je trouve que vraiment là, ça, on passe en mode plan de méchant nul, quoi.
Ouais. Ils la cherchent depuis je sais pas, sa naissance, ou avant même sa naissance, et là, ils peuvent juste pas attendre 2 jours. Et en plus, si j'ai bien compris, je me trompe peut-être, mais ils ont besoin d'elle avec le bracelet, là. Ils ne peuvent pas juste lui prendre le bracelet et l'utiliser, si ? Peut-être qu'ils peuvent faire ça.
Mais visiblement, ils veulent lui prendre le bracelet. Hein.
D'accord, donc, ok. Bon, sur ce point, ok, ils veulent juste prendre le bracelet, mais effectivement, elle est... Et puis en même temps, elle est... c'est une nana qui sort de nulle part, qui a son bracelet depuis 3 jours, et eux, c'est des guerriers millénaires qui viennent d'une dimension parallèle, machin... Et ça, c'est un peu... on avait parlé de la poursuite de Leia dans Obi-Wan Kenobi. Ah merde, ouais, pardon, spoiler, pardon. Si vous n'avez pas vu ça. Mais on est un peu... Alors, pas autant, c'est un combat auquel elle se bat, mais c'est pas très crédible, quoi. C'est pas très crédible.
Non, ouais, c'est ça, en fait. Ces antagonistes-là, ils sont pas crédibles. Donc, ils perdent effectivement face à elle déjà, mais aussi comment ils se font capturer... comme de rien la DODC, c'est ça ?
Ouais, le Department of Damage Control.
Alors que ça fait 100 ans qu'ils sont cachés, que personne connaît leur existence nulle part, et tu vois, et où ils ont le temps de s'entraîner, de ce machin, etc. Ouais, il y a un truc qui cloche, et ça se voit un peu trop pour le passer sous le tapis de la crédibilité volontaire, quoi. Donc, pour moi, la cerise sur le gâteau de ça, c'est... Et on va après arriver dans, je pense, dans ce qui t'a gêné aussi dans l'épisode d'après, mais c'est le du coup, elle a cette vision du train, et sa grand-mère qui l'appelle pour lui dire il faut que tu viennes absolument à Karachi, avec le synonyme. Et pour moi, ça m'avait vraiment inquiété, c'est ça qui m'avait vraiment inquiété, en fait. Je me disais, aïe, on va quitter le New Jersey, donc on va quitter l'ancrage social de cette Kamala, donc ce qui me plaisait finalement jusque là pour partir dans un tunnel full origine des pouvoirs, machin cosmique, etc., quoi. Et c'est un petit peu le cas, mais du coup, bon, moi après, j'étais un peu rassuré, mais les toi visiblement pas. Mais du coup, déjà là, j'étais quand même assez inquiet quand même pour la suite de la série. Je sais pas toi, je pense que ça a dû te faire un peu la même chose, quoi.
Ouais, ce qui me gêne, et c'est encore plus prégnant dans l'épisode 4, c'est que c'est de l'écriture paresseuse, enfin pas paresseuse, mais pas inspirée. On est en train, et ça commence à devenir un thème avec les séries Disney+, j'ai l'impression on est en train de partir dans un truc où le comment dire, la quantité pèse sur la qualité. Et on se disait il y a quelques mois, ah oui, mais les premières séries, tu vois, c'était compliqué, il y avait la pandémie et ils n'arrivaient pas à faire ceci, cela. Mais elles étaient, dans l'ensemble, en moyenne, je trouve, beaucoup plus inspirées que ce qu'on est en train de voir maintenant, alors qu'ils ont eu, a priori, un petit peu plus de temps pour s'adapter. Enfin, j'en sais rien s'ils ont plus de temps, mais disons que ce n'était pas le rush du lancement. Et même un truc comme Captain America and the Winter Soldier, Falcon and the Winter Soldier, qui était, bon, on en a beaucoup parlé, c'était clairement pas une immense réussite au niveau de l'écriture, mais il y avait des trucs qui étaient plus, qui faisaient un petit peu plus. On avait l'impression, en fait, de voir un film Marvel pas super réussi. Alors que là, avec les dernières séries, on a vraiment l'impression de voir une série CW un petit peu moins couillonne, quoi. Et ce changement d'étage m'inquiète énormément, parce que si c'est ce genre de choses qu'on va avoir pendant les années à venir, je suis pas sûr que ça m'intéresse énormément. Comme on le disait avec Obi-Wan Kenobi, bon, moi, je regarderai parce que... Mais... C'est, au bout d'un moment, en fait, les séries Marvel de Netflix, les premières étaient incroyables et je les regardais, je les dévorais, tu vois, je les regardais vraiment avec énormément de plaisir. Et puis, au fur et à mesure des années, on est arrivé à une situation où des trucs comme Iron Fist saison 2 ou même Alias, comment ça s'appelle
Jessica Jones.
Saison, je sais plus, je crois que c'était la 3, je l'ai même pas fini. Je me suis forcé à regarder Defenders, mais c'était tellement con que ça me faisait mal aux yeux à chaque épisode, à chaque scène, à chaque plan. Mais tu vois, alors on n'en est pas encore là avec Marvel, évidemment. Là, on est dans un milieu de série qui est mou, mais informé par tout le reste de ce qu'on a vu, je commence vraiment à me demander si c'est pas dans cette direction qu'on se dirige et qu'ils... Et ils ont pas tort, parce que je vais pas arrêter mon abonnement Disney Plus de sitôt, parce qu'il y a plein de trucs qui intéressent et que je veux voir quand même et que je veux m'infliger. Mais je déteste ça, tu sais, le fait de t'infliger des trucs et de détester et puis de dire « Ah, c'est pourri, mais je regarde quand même », c'est une attitude que j'aime pas. J'en suis pas là.
Ouais, j'ai banni ça aussi de mon côté. J'ai banni ma règle maintenant, c'est effectivement si vraiment, enfin si c'est un truc que j'aime pas, je vais pas vraiment me forcer, quoi, tu vois. Mais là, j'en suis vraiment pas là non plus, tu vois. Ouais. Non.
J'avoue.
Toujours
J'avoue.
Y a toujours ce côté. Et par contre, effectivement, il y a une vraie dégradation, et t'as raison de le dire sur la série en elle-même. Et c'est un truc qu'on a vu. En fait, c'est un peu l'histoire du MCU en série, quoi. Ouais. À chaque fois, les deux premiers épisodes, on est super content, on trouve ça super prometteur, super fou, et ensuite ça. T'as le fameux ventre mou qui arrive juste après, et puis après la fin est soit bon, ok, soit pas bien du tout. Enfin, c'est. C'est un peu compliqué, et du coup, là, pendant que tu t'en parlais, je me faisais la réflexion de savoir, en fait, c'est quoi la marge de manœuvre, enfin, à quel point on peut dévier ou changer de direction quand on a une production comme ça, parce qu'ils sont quand même dans un flux ultra tendu, quoi. Tu sais, je pense un peu aux Assassin's Creed il y a quelques années où ils les enchaînent,
c'est l'usine, quoi,
ouais. et les critiques qui peuvent émerger ne peuvent être pris en compte que vraiment des années plus tard, en fait. Parce qu'eux, ils sont dans un circuit de production avec des trucs qui prennent 4 ans, 5 ans à faire de bout en bout.
Ouais, et puis tu as une sorte de modèle que tu reproduis, ça. Et pour changer le modèle, il faut y aller. Ouais.
Et c'est un peu l'usine, quoi, Marvel. Hein. Enfin, ça, même si on aime bien, il faut admettre qu'ils ont tout un système de production bien carré, bien défini, et que changer les blueprints, hein, comme on dit, ça peut demander du temps, et ça demande aussi à ce que de leur côté ils aient accès à la critique et qu'ils acceptent que la critique est bonne malgré leurs bons résultats. Enfin, c'est pas évident du tout, en fait, comme chose à voir arriver. Donc voilà, j'espère que ça va que ça va pas, qu'on prédit pas les choses, hein, que ça va changer plus rapidement.
Dis-moi, entre Star Wars il y a quelques jours et maintenant Marvel, on est un peu désenchanté, quoi.
Ouais, alors du coup, moi, je voudrais quand même revenir un peu sur l'épisode 4, où du coup, ils sont à Karachi. Donc moi, je t'avais dit que j'avais peur avant qu'ils y aillent, et finalement, j'ai été rassuré. Alors ce qui m'a rassuré, c'est déjà que du coup, la mère soit venue avec elle, et que du coup, on découvre un peu sa famille, la partie de sa famille qui est restée au Pakistan, la vie à l'extérieur, enfin la vie, dans la rue. Je trouvais ça très chouette comment c'était.
C'est vrai.
Comment ça a été montré, les rues, les machins. Enfin, voilà, moi j'étais bien. J'avais envie d'y aller aussi, tu vois. Enfin, j'ai trouvé ça assez chouette comme endroit. Après, il y a toute la partie et là, pour moi, c'est là où c'est dramatique. C'est toute la partie. Alors, j'ai pas bien compris qui ils étaient là, le groupe de Red Dagger. avec Basile Exposition qui attend enfermé dans un truc souterrain et qui lance son PowerPoint
C'est là que ça m'a vraiment perdu.
C'est ça qui est dramatique dans l'épisode.
Le début, c'était un peu comment, je trouve qu'ils ont évité justement la partie tourisme. Oh, regardez comme c'est exotique et machin dans le début. Que je trouve que toute la partie culturelle, tu vois, toute la partie, on est une famille musulmane immigrée aux États-Unis, était hyper bien traitée. Et là, alors oui, c'est parce qu'elle redécouvre, elle est peut-être jamais allée à Karachi. Oui, elle est jamais allée à Karachi, donc elle découvre. Mais du coup, on retombe sur le truc. Regarde, heureuse occidentale, l'exotisme de cette lointaine contrée où les gens sont pauvres mais heureux, tu vois. Et c'est un peu. J'aurais préféré qu'ils évitent ça. Si elle y avait déjà été, il n'y a pas de raison, tu vois. Elle y est déjà allée 2-3 fois, elle se souvient, il y a longtemps, mais elle s'en souvient, elle se souvient de sa famille, de sa maison, machin. On n'avait pas besoin de ça. Et ça fait tellement cheap, je trouve, de l'avoir tourné comme ça, que ça m'a un petit peu sorti du truc. Mais bon, à la limite, c'est un passage obligé. J'aurais pu m'en accommoder si on n'avait pas eu ensuite cet artifice d'écriture tellement ridicule, genre, je vais à la gare. Et à la gare, je découvre le Red Dagger machin qui m'emmène, comme tu le dis, voir Basile Exposition, qui sort son PowerPoint et qui, en plus, son PowerPoint, c'est une... Enfin, j'en peux plus des dimensions parallèles qui viennent se collider avec la Terre. À un moment, il va falloir... Enfin, je sais pas, il faut faire quelque chose, quoi. C'est encore... Ah, mais tu te rends pas compte, si tu le fais, la dimension peut envahir la nôtre et transformer, machin. Et en plus, ces clandestins dont on aurait pu avoir une histoire intéressante, même si dans l'épisode précédent, on n'avait pas grand-chose, là, on aurait pu nous expliquer quelque chose d'intéressant, un truc original, intrigant. Et non, en fait, c'est juste... Oh, bah, ils sont... Alors, peut-être que ça arrivera dans les deux épisodes suivants encore, mais j'ai l'impression qu'on est à l'épisode de Moon Knight, où il se réveille dans l'hôpital, et là on se dit « Ah ouais, peut-être qu'il y aura un truc super intéressant », et en fait non. « Ah bah on retourne dans le truc où on était, et puis voilà, on sait pas très bien qui est quoi, qui fait quoi, c'est juste des méchants d'une autre dimension. »
C'est ça en fait, c'est-à-dire que moi toute cette intrigue-là m'intéresse absolument pas. J'ai envie qu'elle retourne au lycée, et que je continue à la voir évoluer avec ses pouvoirs, enfin voilà. Clairement, pour moi, ça, cette partie-là, c'est Et comme tu le dis, on n'y reviendra pas. Je veux dire, l'épisode ne se termine pas sur son retour à New Jersey. Donc,
tu crois qu'on va finir encore... à Karachi ? La série, tu veux dire ?
Le dernier épisode, elle sera peut-être de retour au New Jersey, mais je veux dire, on ne sera plus dans une routine, dans sa routine quotidienne, ce qui était intéressant à traiter, quoi. Ça, à mon avis, c'est foutu. En plus, là, ça se termine sur visiblement, elle voyage dans le temps. Alors, on ne sait pas encore si c'est une vision ou si elle est vraiment physiquement à la
guerre.
C'est
elle qui va sauver sa grand-mère. Le Trail of Stars, c'est ses bras qui vont l'emporter.
Ils savent pas, effectivement, ouais. Donc, effectivement, il y a des chances que ça se termine là-bas quasiment, quoi. Et puis le retour pour la fin, clôturer la fin.
Avec, ah, c'est le retour en classe, et elle se réconcilie avec Nakia, et Bruno est là à côté.
Ouais. Et ben du coup, Bruno a disparu, Nakia aussi, tu vois. Donc, c'est aussi des personnages qui étaient sympas à suivre, et ben, le fait d'être parti, il n'y a plus ça, quoi. Et puis, on échange ça pour les nouveaux personnages secondaires. Alors, du coup, moi, c'est toujours un peu compliqué, quoi. C'est ces sociétés un peu secrètes qui luttent contre des gens secrets, sans jamais rien dire à personne. Là, ils sont que deux.
Bah oui, c'est ça, en plus. Ils ont leur base secrète super technologico machin. Ils sont deux avec à manger de la bouffe chinoise à emporter.
Ouais, dans l'arrière-cuisine, machin. Bon.
C'est tellement genre, je suis allé à la gare, j'ai découvert quelqu'un qui se bat, et finalement, il m'aime bien, et il m'emmène dans sa base secrète. Enfin, c'est... Mais on a l'impression d'un truc qui a été écrit par un enfant de 10 ans, quoi. Je comprends pas. Ouais. Et à la limite, le fait d'aller à Karachi et de perdre l'ambiance de la... comment dire, que tu apprécies là du New Jersey, ils auraient pu faire quelque chose d'intéressant. Moi, je pense pas que c'est forcément rédhibitoire. Mais là, l'histoire des clandestins est pas originale et pas intéressante. L'histoire des Red Daggers est pas originale et pas intéressante et n'a pas de sens. Et tout, genre comment ils s'échappent les clandestins de la prison de la Supermax prison DODC. Enfin, t'as l'impression de voir un film amateur, quoi. C'est un court-métrage amateur. Genre là, on a trouvé une vieille usine, vous marchez dans le couloir et il y a deux gardes. Et là, tout à coup, vous cassez vos menottes et vous les tapez. Mais où sommes-nous ? Je suis outré. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc voilà, vraiment cet épisode 4. Puis ils arrivent du coup à Karachi, ils trouvent tout de suite, parce qu'ils sentent Kamala, j'imagine, ils trouvent tout de suite la base des super secrets qui sont cachés depuis des millénaires. Et puis ce combat qui est ridicule en plus, où qu'est-ce qui se passe ? Il y a une sorte de fumée partout, et puis rien ne fonctionne dans cet épisode, je trouve. La relation entre... Kamala et sa mère et leur grand-mère, ça fonctionne. Et je suis amoureux de cette actrice, la mère de Kamala, elle est tellement bien. Je ne sais pas si c'est juste qu'elle est comme ça ou si c'est une actrice magistrale, mais elle est super, vraiment. Tu sens la mère et l'inconfort avec sa propre mère et en même temps l'amour qu'elle porte. Elle est parfaite, mais c'est le seul truc, quoi.
Moi j'aime bien aussi toutes ces interactions avec les jeunes qui sont là, quoi. Donc les balades un peu dans la rue, c'est ça, et puis après même le repas sur la moi c'est tout ça que j'aime bien. Mais dès qu'on arrive effectivement dans les antagonistes là, t'as raison, c'est assez dramatique, et j'ai l'impression que c'est surtout un plot de saison 2 en général, ça, tu sais. Normalement t'as la saison 1 où elle découvre ses pouvoirs, il va y arriver des bricoles en rapport avec le fait qu'elle ait des pouvoirs et des gaffes qu'elle va faire, etc., machin. Peut-être un antagoniste qui va arriver, mais un petit machin, c'est fin de saison 1, et après la saison 2, qu'est-ce qu'on peut faire, on va voir d'où viennent ses pouvoirs, machin. Et tu vois, c'est vraiment là, j'ai l'impression d'avoir aussi un accès un truc un peu rushé pour arriver à la conclusion dont ils ont besoin pour
de Marvel ou pour un autre film, quoi.
Ouais, c'est ça, parce que clairement il y a un lien, parce que du coup là on l'a pas dit, mais on a un flashback au début du troisième épisode où on voit quand tout ce groupe là des clandestins vont trouver le bracelet, bracelet qui est attaché à la main d'une personne qui est toute bleue, donc je suppose
c'est
que
peut-être un alien ou une créature bizarre.
Moi, je vois ça comme des cris, tu sais, les mêmes...
Ah, tu crois, oui, c'est pas con.
Ouais. Ou à la race qui avait enlevé Carol Danver, quoi. Et du coup, ça fait le lien direct avec Carol Danver. Après, le fait qu'il y ait les Ten Rings, bon, je sais pas trop s'ils veulent faire des liens avec Shang-Chi.
Oui, on a vu effectivement les Ten Rings, ils étaient quelque part où il y avait les Ten Rings. Enfin, il y a un lien aussi avec avec les Ten Rings, possiblement, ça a l'air d'être ce vers quoi ils tendent, ouais.
Ouais, voilà. Donc je l'avais déjà dit, c'est que il y a deux solutions pour moi pour apprécier un film ou une série du MCU. C'est soit c'est bien en soi, soit c'est juste bien, quoi. C'est cool. soit ça m'apporte assez de grains à moudre sur la partie le truc global, quoi. Donc assez de nouveautés dans l'univers, etc. Donc là, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire que il y a une partie que j'aime énormément dans Miss Marvel. C'est-à-dire, j'ai toujours eu, moi, j'ai même le dernier épisode, je continue à le regarder vraiment avec un peu un sourire quand même une affection pour Kamala et puis pour l'ambiance générale de la série. Et quand ça se passe pas bien, et ben je me dis oui, bon, ça se passe pas bien, mais au moins on avance un peu dans le lore global de cet univers là, donc bon, je le prends quand même, quoi.
Je veux dire encore deux choses, mais revenir à l'épisode 3, parce qu'on était parti dans les aspects négatifs et je voulais pas faire un petit peu de positif et puis revenir au négatif. Donc je vais finir sur le négatif avec un truc qui est pas vraiment négatif, mais qui est un peu une occasion manquée. C'est la phrase de l'imam de Kamala qui est hyper emblématique dans les comics et qui était une opportunité d'en faire quelque chose de vraiment emblématique là aussi, et qui, je trouve, tombe à plat. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était un truc que beaucoup de gens attendaient. C'est quand elle est en prise de plein de doutes et qu'elle ne sait pas quoi faire et elle ne sait pas comment être une héroïne, etc. Et l'imam lui dit « Kamala, good is not a thing you are, it is a thing you do. » Donc, le bien, c'est pas quelque chose que tu es, mais c'est ce que tu fais. Et alors, dit comme ça, c'est couillon, évidemment, mais ça a vraiment le pouvoir d'être une phrase hyper emblématique des super-héros, qui vient au cœur de qui fait que tout le reste marche. Comme par exemple avec Spider-Man, avec de grands pouvoirs.
Pouvoir et responsabilité.
Responsabilité. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a eu plusieurs dans le MCU comme ça, des trucs qui sont dits en passant et qui sont de la philosophie de comptoir, mais qui ont quand même leur force. Quand, par exemple, Tony Stark dit encore une fois à Peter Parker, si tu n'es rien sans ton costume, alors tu ne le mérites pas. C'est fort, tu vois, c'est un moment du film en plus où il se passe un truc, c'est un pivot, c'est un... Il y a quand Steve Rogers dit à Tony Stark, à chaque fois que quelqu'un essaye d'arrêter une guerre avant qu'elle n'arrive, des personnes innocentes souffrent ou des personnes innocentes meurent, c'est fort aussi, tu vois, c'est une manière de mettre son drapeau dans le sol et de dire, non, voilà, ça c'est ma ligne, ça je ne vais pas au-delà de ça. Et vraiment... Alors, dans une moindre mesure, tous ne sont pas aussi forts que pouvoir et responsabilité, mais il y avait l'occasion d'avoir cette phrase-là de Miss Marvel, qui est vraiment, encore une fois, au niveau des comics, assez emblématique, d'en faire quelque chose d'assez fort dans la série et dans le personnage. Et je trouve que malheureusement, ça tombe à plat par la réalisation, peut-être par la performance de l'acteur ou par je ne sais pas. Mais en tout cas, quand il le dit, c'est presque une phrase que tu oublies, qui passe comme ça et qui disparaît. Et si j'avais pas le passif du comique et de cette phrase qui revient de temps en temps, bah je m'en serais même pas aperçu. Et du coup, je trouve que vraiment là, c'est une. Alors c'est pas horrible, mais c'est vraiment une occasion manquée dans la série. Moi, je l'attendais cette phrase et de la manière dont ils allaient la tourner. Donc j'étais un peu déçu, quoi, de ça.
Ouais, j'avais pas relevé, bien sûr, j'ai entendu la phrase, etc., mais je m'étais pas fait la réflexion, effectivement, qu'elle est finalement positionnée, pas idéalement, quoi, dans l'arc du personnage, parce que du coup, effectivement, quoi, c'est encore une fois, ça, c'est un truc de saison 1 où normalement il s'est passé plein de choses, elle a fait des gaffes, etc., tu vois, enfin, où il y a une vraie remise en question un peu profonde de quelque chose et ce qu'on n'a pas là.
C'est très léger, phrase, quoi.
Voilà, c'est ça, la phrase perd de son poids. Voilà, effectivement, ouais. J'avais pas forcément vu ça.
Bon, j'étais déçu que ça ait été gâché. Allez, maintenant, un petit peu.
Qu'est-ce que t'as bien aimé, alors ?
Alors, ce que j'ai bien aimé, le mariage. Mais il était incroyable, ouais. Le mariage, avec toute la scène de la danse. Déjà, je trouve que l'ambiance entre Kamala, ses amis et la famille fonctionne super bien. Tu vois, on a cet aspect qui manque d'ailleurs dans l'épisode 4, cet aspect hyper joyeux où ça te fait sourire dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, moi, j'étais super content devant ma télé en train de sourire aussi. Et puis, quand il commence à danser... Non seulement, bon évidemment c'est dans le thème film indien, enfin Bollywood, Pakistan, j'imagine qu'ils font la même chose, etc. Mais, Mais en plus de ça, c'est le plaisir de tous les de toutes les personnes qui sont au mariage. Tu le ressens vraiment, ils se mettent tous à danser. Et tu vois Amir qui joue le jeu et qui fait genre « Oh non, j'y crois pas, comment ils sont en train de faire ça, ils ont préparé tout ça pour nous. » Et tu vois avec sa femme. Et puis tout à coup, à un moment, au milieu du truc, lui, il se lève et il va danser aussi. Et sa femme qui y croit pas, tu vois, c'est tellement le bonheur et la surprise. Et
c'est très authentique comme scène. Et puis, je pense que un des trucs qui joue aussi, c'est justement la chorégraphie qu'ils ont. C'est pas une chorégraphie, tu sais, vraiment millimétrée façon, justement, ouais. Façon Bollywood.
J'allais
tu sens que c'est
aussi,
juste ouais. Des gens qui dansent à un mariage, quoi. Donc, ils ont répété leur chorégraphie, donc ils la font, etc. Et c'est top, quoi. Effectivement, et tu sens que les acteurs, ils se sont éclatés à être là et tout ça. Et ça, c'est super communicatif, ce moment. Ouais, ouais. Et c'est d'autant plus triste après. Bon, je retourne sur du négatif, quoi, mais c'est dommage, du coup, d'avoir gâché la fête aussi vite avec un truc qu'on n'aime pas derrière. Mais du coup, on est fâché comme, la famille de Kamala, qu'à cause d'elle, on n'ait pas eu le mariage en entier, quoi.
Bon, moi, ça m'a pas gêné que ça s'arrête, parce qu'à un moment, tu vois, ils vont pas danser pendant 25 minutes. Mais oui, le combat, en plus, le combat est pas incroyable, mais à la limite, j'aurais pu vivre avec ce combat s'il le refaisait pas dans l'épisode d'après. Parce que mine de rien, c'est quand même deux fois de suite les clandestins qui arrivent, qui essayent de tout casser et qui se font justement, eux, un petit peu casser la bouche. Et bon, mais oui, je suis d'accord, mais je reste sur ce... Tu vois, l'épisode 3, j'aurais envie de le revoir pour cette scène-là. L'épisode 4, j'ai pas du tout envie de le revoir. c'est pas vraiment nécessaire, quoi.
Ouais, après, juste pour reparler un peu des combats, effectivement, les clandestins, bon, c'est pas terrible. Par contre, j'ai assez bien aimé, moi, les échanges, le combat entre Red Dagger et Kamala. J'ai trouvé ça très chouette en termes de chorégraphie.
Ouais, vraiment, contre, comment il s'appelle, c'est Karim, c'est ça le combat dans la gare, tu veux dire.
Karim, oui, c'est ça, le combat dans la gare.
Oui, il était pas mal.
Il a éclaté les trucs. Voilà, je trouve qu'il y a quand même un super potentiel avec ces pouvoirs-là de... Un potentiel comique et aussi un potentiel de chorégraphie vraiment sympa avec le fait qu'elle se fasse des plateformes, des machins qui se cassent, qu'elle reconstruit au dernier moment et tout ça. Et je trouvais que c'était assez bien exploité là justement dans ce combat-là. Parce que bon, le risque avec ce type de pouvoir, c'est qu'elles finissent par faire toujours la même chose, tu sais. Je repense, parce que comme elle a un truc qui ressemble un petit peu à ce que peut faire Green Lantern. Tu vois, le fait que Green Lantern il puisse faire... Ouais. C'est un truc de l'imagination, il peut matérialiser ce qu'il veut, sauf que dans le film, il matérialise toujours un flingue ou des... Ouais. Tu vois, il fait toujours la même chose, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'il se casse un peu la tête quand même à voir un peu comment exploiter ses pouvoirs, ses constructions, ses machins, etc.
C'est beaucoup de plateformes, quand
j'aime bien
même,
ce qu'ils font, ouais. Ouais, mais elle apprend, ouais. J'espère que ça va un peu évoluer, mais je trouve qu'à chaque fois, on sent qu'elle s'améliore un peu de plus et qu'elle fait des trucs un peu plus sympas, quoi.
Je suis d'accord. Ce combat-là, il était pas mal. Il était un petit peu inventif. Moi, ça me gêne toujours quand ils font... Tu sais, elle fait des plateformes, et puis elle se casse, et 2 mètres plus bas, elle fait une autre plateforme. Mais les plateformes, elles sont très dures, hein, on est d'accord. C'est du ciment, tu te casses la gueule sur ça, ça fait très mal quand même. C'est pas parce que c'est une plateforme que c'est un coussin. Donc, voilà, là, je pinaille. Le combat était sympa, il était bien foutu. C'est la partie qui était pas... Moi, le combat dont je parlais, c'était surtout celui où les clandestins arrivent dans la base des Red Daggers et on nous resserre le même truc où c'est clandestin, les pauvres.
J'avais oublié ce combat-là, tu vois. J'ai complètement oublié. En plus, ils ont tué Basil Exposition, donc on pourra pas avoir de nouveaux PowerPoint.
C'est ça. C'est vraiment... t'arrives en plein milieu de la réunion, déjà, c'est hyper mal poli. Ouais, tu tapes à la porte avant de machin. Donc c'était... Et ces pauvres clandestins, mais putain, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant leur millénaire, quoi. Et mine de rien, on va pas repartir sur les trucs négatifs, mais... Ça fait un peu redite des Éternels aussi, quoi. Cette sorte d'entité un petit peu étrange, plus ou moins divine, les djinns qui sont cachés. Et puis, enfin bon, bref, c'est pas... Bon, il reste 2 épisodes. Ouais. Soyons positifs. Peut-être que ça va être sympa. Moi, je m'attends pas à un final genre incroyable et totalement super méga cool et qui sauve tout le reste. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que ça soit sympa, tu vois, que ça se finisse de manière sympa. Le cinquième épisode est réalisé par le réalisateur, ou la réalisatrice, pardon, du quatrième. Donc, je suis un petit peu... Bon, on verra.
Ouais, moi, je pense malheureusement, Patrick, que le cinquième sera vraiment sur la
voie lignée du quatrième. Ouais.
Ouais, ouais. Et qu'on va revenir un peu dans ce qu'on aime bien dans le dernier.
Ouais.
C'est comme ça que je le vois. Hein.
Les réals du dernier sont les réals du premier. Donc, peut-être que ça reviendra effectivement. Mais tu sais quoi, le dernier épisode, j'espère que le cinquième sera pas, je le détesterai pas autant, détester c'est un mot fort, je ne rirai pas aussi peu que le quatrième, mais s'il remonte un petit peu, tu vois, ça va dans le bon sens, et si le cinquième est bien, la série pourrait être sympa quand même dans son ensemble.
Ouais.
Mais bon, je suis circonspect.
Ouais, parce que du coup, enfin, on finit quand même sur un moment. D'ailleurs, moi, je trouve cette gare super bien faite à la fin. Là,
la gare, oui, elle est bien. Oui.
Ouais, ouais. Donc, je pense qu'elle va rester dans ce monde-là un petit peu tout l'épisode pour en sortir à la fin et puis après aller vers la conclusion, quoi. Ouais, c'est un peu comme ça que je vois un peu la structure arriver.
Bah pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si c'est si c'est bien écrit, si c'est quelque chose de... Encore une fois, ça n'a pas l'air d'être hyper original, mais si on a une explication un petit peu intéressante, peut-être même qu'elle va aller dans le monde de... Comment ça s'appelle la dimension, machin. Alors, vu les budgets, je crains que ça fasse cheap si elle va dans un univers dans CGI-verse. Mais bon, pourquoi pas ? Et qu'elle rencontre ses ancêtres, sa famille, encore sa famille de l'autre, de l'autre côté du multivers, de la même manière qu'elle a découvert le Pakistan, tu vois. Maintenant, elle va découvrir la dimension du Nour.
Oui, c'est ça.
Bon.
C'est un peu la métaphore du truc, hein. C'est la première génération de c'est les natifs. Elle est à la fois native de cette dimension-là et aux États-Unis, c'est tu vois. Enfin, c'est imbriqué, migration imbriquée. Mais du coup, bah voilà. Moi, je pense que voilà. Alors, pour spéculer un peu, je pense que tout va bien se finir. C'est-à-dire qu'elle va trouver un moyen de la renvoyer. Ils vont pouvoir retourner chez eux tranquillement sans détruire la dimension, parce que de toute façon, j'imagine pas Kamala. Tuer les dix
clandestins,
les massacrer. Donc il faut bien en faire quelque chose. Donc je pense qu'elle va réussir à les renvoyer et que tout se finira bien. Et puis il y aura probablement un Carol Denver qui va débarquer pour le dire.
En post générique.
J'ai senti le Noon aussi. Tout le monde sent le Noon.
Le Noon.
Le Noon. C'est ça.
Est-ce que tu crois qu'ils vont réussir à sortir l'argent pour avoir Carol Denver ou est-ce qu'ils vont envoyer Photon? Juste tu vois, en pause générique.
je serais déçu. Bah, j'aime bien Photon, mais j'avoue que pour moi, ça allait forcément être.
Miss Marvel, Captain si Marvel. Tu vois pas Captain Marvel, c'est quand même.
C'est dommage. Ouais. Ça serait dommage. Quoi. Ouais, ouais.
Donc, une ouverture sur les.
C'est que le film arrive après, donc il faut. Ouais. Il faudra raccrocher les ponts à un moment ou à un autre. Quoi.
Bon, bah écoute, un petit peu tiède hein, cette semaine quand même de Super Laser Punch. J'espère qu'au moins, ça vous montre à quel point on n'est pas juste des fanboys, quoi. On essaye vraiment d'être objectif et quand on aime, ça veut dire qu'on aime vraiment. J'espère qu'on va bien aimer des choses quand même, là. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas été wowifié sur ces trucs-là. Y a Thor, Love and Thunder qui arrive, comme on le disait. Tu es où au niveau de hype et d'espoir sur ce film-là ?
Hype assez à zéro, parce que je comprends. comme je connais les arcs de comics, là, pour le coup, c'est un peu mon côté, tu sais, oh, le livre, c'est mieux. Tu sais. Voilà, donc je regarde ça un petit peu de manière assez méfiante. Alors j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils en font, mais j'ai un peu peur qu'un seul film, classique des gens qui ont lu les livres, hein. Film.
En un film, c'est pas possible.
Voilà, donc je suis dans ce mood-là, écoute, je l'accepte et je l'embrasse complètement. Mais bon, j'irai le voir dès la sortie le 8 au soir. Il faut que je prenne mes billets, mais ça je vais quand même courir le voir. Mais voilà, c'est le 3, tu vois, le Thor précédent, j'étais pas allé le voir au cinéma. C'était vraiment ma période où je me disais, je me disais, bon, bah, le MCU, là, ça y est, c'était un peu la fatigue. J'étais pas allé le voir au cinéma et je l'ai découvert en Blu-ray. Quand il est sorti en Blu-ray, je l'avais acheté et j'avais adoré, tu vois. Donc,
Donc toi, t'es un fan de Taika Waititi
Pas trop, quoi. Mais ça m'avait surpris. Parce que à sortir de Thor 2, où c'était quand même assez sombre, puis le film pas très bon, et puis voilà. Et là, je trouve qu'ils ont réussi à trouver le bon angle à partir de celui-là, du 3, le bon angle pour ce Thor-là de MCU, en fait. Ouais. En termes de ton, en termes de jeu, en termes d'aventure. Donc, je me dis qu'ils sont quand même sur
le bon... Quitter la dramaturgie un petit peu théâtrale et aller dans le comique.
Et ils s'en moquent avec, justement, le théâtre, avec les acteurs qui jouent, les personnages, Matt Damon et tout ça, mais du coup voilà, je me dis au minimum je vais bien me marrer, ça va être sympa, donc quand même voilà, je pense que j'ai passé un bon moment, mais j'ai assez peur pour la partie ces arcs que j'adore et qui ont un gros potentiel épique et incroyable et tout ça, j'ai peur que du coup ça soit relégué un peu à un truc de second plan pour servir de l'humour et de la comédie, et je trouve ça dommage quoi.
Ouais, je suis assez d'accord. L'arc, en effet, et des comics, c'est hyper intéressant, surtout pour Jane Foster. Et j'ai du mal à imaginer qu'ils vont utiliser ça et développer ça comme ça a été présenté. Et on n'a pas forcément besoin de suivre exactement les comics, mais sur ce truc-là, c'est ça qui serait intéressant. Et moi, je suis un peu comme toi j'avais pas adoré le 3. Je l'avais trouvé, justement, j'avais été un petit peu choqué par la partie humour, d'une part, qui est, bon, clairement, c'est beaucoup mieux que Thor 2, qui était lamentable. Mais surtout, j'avais trouvé que l'histoire était un petit peu paresseuse avec Hela. Et je trouvais aussi que... je vais pas faire mon snob, mais le... La partie Hulk, World War Hulk, était un petit peu évacuée tellement rapidement, c'était un petit peu dommage, mais je comprends pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais bon, dans l'ensemble, c'était sympa, et je pense que le 4 sera sympa au moins, mais j'ai tellement envie que ça soit à la hauteur de The Mighty Thor, du concept, on va dire, de Mighty Thor, que je crains que ça soit passé un petit peu...
Tu as lu le Massacreur de Dieu ou pas ?
Ah non, je ne l'ai pas lu, non.
Cette partie-là, pour moi, c'est vraiment un des tout meilleurs comics que j'ai lu.
Ah oui,
lu, hein,
Gore the God Butcher.
Ouais, c'est ça. C'est l'arc s'appelle le Massacreur de Dieu et il y a.
Mais moi, je parle anglais. Je suis version originale.
Ça doit être God Butcher. Ouais, ça doit être. Ouais.
D'accord. Écoute, je vais peut-être essayer de le lire avant le film. Ça, ou peut-être qu'il faudra que j'attende et que je le lise pas et que je le lise après.
Il y a un truc qui aura pas, c'est sûr, dans le film, c'est que
Non, mais non, dis rien.
Non, mais je parle juste du principe que j'adore en fait dans cet arc-là, c'est que. Je pars du principe que du coup Thor est immortel et du coup ils expliquent que par contre ils ont quand même des limites physiques et ils peuvent pas retenir, donc ils ont une mémoire qui peut pas aller à plusieurs milliers d'années en fait.
Ah oui,
et
d'accord.
Du coup Thor va oublier à différents âges ce qu'il a fait avant, et du coup tu suis un Thor d'il y a plus de 1000 ans, un Thor actuel et un Thor qui est tellement vieux qu'il est devenu Odin, etc. dans le futur, et en fait c'est une enquête qui va se dérouler à trois périodes de temps différents. Autour de ce mec, ce Gore qui tue des dieux, et c'est un truc vraiment épique qui a un final absolument génial.
D'accord.
Et c'est vraiment, moi c'est vraiment un truc que je recommande très très chaudement en termes de lecture.
D'accord, écoute, je vais peut-être le... Et oui, clairement, je pense que c'est le genre de chose qui va être très très modifié dans l'adaptation ciné. Bon, on verra. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. On se retrouve du coup, j'espère, mon problème c'est que les enfants sont en vacances à partir de ce soir. Et donc, c'est un petit peu compliqué pour moi de faire des émissions, mais j'ai préparé des choses pour le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, normalement c'est géré. On essayera de faire les Super Laser Punch en temps et en heure pour Thor et pour Miss Marvel. Si on est un petit peu en retard, j'espère que vous nous en excuserez. Il faudra qu'on trouve des moments où se faire ça. Mais on essaiera de se parler et de se coordonner. Sinon, au pire du pire, vous aurez quelques semaines de blanc et puis on viendra en parler en août, première semaine d'août. Mais on essaiera quand même d'être là avant, hein, Johan. Ça te va ?
Oui, ça va.
Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre, Johan, où est-ce qu'on peut te suivre sur Twitter, par exemple?
Sur Twitter, à Johan T underscore.
Magnifique. Et sur le Discord, bien sûr. Vous pouvez venir sur le Discord de la commu et discuter de ça et de plein de choses. Peut-être nous dire à quel point vous êtes déçus de notre manque de fidélité.
On n'est pas des vrais fans, voilà.
C'est ça. De notre manque de fanitude de Marvel et de Star Wars et de tout ça sur le Discord. Pour aller sur le Discord, il y a un lien sur notepatrick.com et vous pouvez venir parler avec nous. Il y a un channel dédié à Super Laser Punch notamment. Et puis sinon, il y a évidemment le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu qui continue pendant les vacances. Et pour l'émission, pour le Super Laser Punch, on fera de notre mieux pour être là en temps et en heure. Bon, j'essaierai quand même d'être disponible. On vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous donc, j'espère, la semaine prochaine. Ciao à tous et à toutes.
Ciao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.